Bien, les enfants, reprenons notre leçon d'histoire.
Cité grecque, cité égale, inégale.
C'est à toi, valeureux Philippides, et à tes compagnons de la garde sacrée, que les Athéniens confient le soin de défendre leur liberté.
Je réprouve les combats, Milciade, et je suis prêt à nous défendre sans livret de combat. La meilleure défense de la démocratie, ce sont ses lois. Mais si l'on vient nous attaquer, chaque citoyen doit se battre comme un soldat.
L'exaltation du corps civique par Philippides, on se souvient du discours de Périclès qui, aux funérailles des soldats morts de la guerre du Péloponnèse, aurait dit « ni l'appartenance à une catégorie ne crée de privilèges, ni la pauvreté n'interdit de participer activement à la vie de la cité ». Nous avons besoin aujourd'hui de se souvenir d'Athènes et des cités grecques au 5e siècle avant notre ère. On dit de toutes parts, en effet, que les mécanismes que nous connaissons de l'élection sont grippés. Un jeune ministre d'ouverture vient encore de nous expliquer qu'il avait déjà produit trop de richesses pour se soumettre au cursus électoral de papa, philosophe de formation. Il connaît par cœur son Platon, qui, au 4e siècle, quand commençait la crise de la démocratie athénienne, voulait fonder la politique sur une compétence approprié. Mais on peut trouver d'autres références dans l'exemple grec. Beaucoup sont particulièrement intéressés par l'égal accès des citoyens à la parole et aux fonctions, des mécanismes précis. D'ailleurs, y veillaient, fondés sur le tirage au sort et la rotation des postes. Les partisans de la démocratie participative aujourd'hui voudraient les voir remis au goût du jour. Le registre des propositions grecques, qui nous est toujours ouvert, est donc vaste. Mais hélas, l'histoire sociale va passer par là. Elle cherche le socle du réel, elle serait bien capable de nous dire que les cités grecques étaient, dans les faits, fondées sur des inégalités structurantes.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Jean-Manuel Rubineau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Paris, à mi-chemin de Bruxelles et de Rennes, où vous enseignez. Vous allez sans doute nous dire ça, que l'histoire sociale révise les leçons sans cesse ressassées de l'histoire politique sur la Grèce.
Oui, je crois on peut dire ça, c'est-à-dire que l'histoire sociale permet de se concentrer sur ce que les sociétés grecques pouvaient avoir d'inégalitaire, alors que je dirais la tendance générale de l'histoire politique, c'est à la fois de se focaliser sur le modèle politique que les cités ont pu produire ou proposer, et puis de se focaliser sur, je dirais, les formes d'égalité institutionnelle que ce modèle politique a promu entre les citoyens.
Donc je vais tenter de remonter avec vous votre pente, et puis vous accepterez peut-être de descendre la mienne, l'histoire politique, un moment dans l'émission. Il faut quand même qu'on situe le lieu, l'espace. Alors les cités grecques de l'extrémité orientale de la mer Noire à l'extrémité occidentale de la Méditerranée, avec une même culture, une même langue, les mêmes lieux, les mêmes sanctuaires, combien sont-elles à fonctionner ensemble ?
Alors, on a un inventaire qui a été réalisé par le Centre d'Histoire Ancienne de Copenhague pour l'Antiquité, on va dire, entre le 7e et le 4e siècle avant Jésus-Christ, qui aboutit à un chiffre de 1500 cités. Si on essaie de se situer en instantané, manière synchronique, on sait qu'à la fin du 4e siècle, il y a un traité de géographie qui comptabilise un peu plus de 730 cités qui existent, donc simultanément, à ce moment-là.
Alors, je suis sûr que vous allez me reprocher de produire des sons qui concernent surtout Athènes, parce qu'il faudrait ne pas parler que d'Athènes.
Ça serait bien.
Ouais. C'est ce que vous faites dans Les Cités Grecques, le livre que vous publiez aux Presses Universitaires de France, et sur lequel je m'appuie pour vous poser cette question. Si je vous ai bien compris, Jean-Manuel Rubineau, la question de l'égalité n'a commencé à être résolu, de la citoyenneté politique dans l'égalité, qu'une fois qu'on a établi dans les cités grecques des distinctions, des frontières sociales.
C'est-à-dire, c'est quand on commence à fixer des statuts de droit qui distinguent les individus, citoyens, étrangers résidents, étrangers de passage, esclaves. Donc c'est à ce moment de l'histoire des cités, qui se situe à peu près au 6e siècle avant Jésus-Christ, que la citoyenneté comme fonction politique se définit progressivement.
C'est seulement quand Solon a fixé le statut des esclaves, alors Solon entre guillemets, hein, je parle naïvement avec des images communes, que après on réfléchira à la liberté politique.
C'est-à-dire un des traits caractéristiques des réformes attribuées à Solon, les réformes soloniennes, c'est d'avoir notamment empêcher l'esclavage pour dette. C'est-à-dire que dorénavant, un individu libre ne peut pas faire le choix de s'asservir lui-même pour couvrir une dette.
C'est-à-dire et ça, qu'avant, ça a un effet. On pouvait être saisi soi-même si on était trop endetté.
On pouvait être saisi et on pouvait le choisir. C'est-à-dire, c'est un choix tout relatif, mais oui. On pouvait décider d'obtenir un emprunt contre un gage qui était sa propre personne, ou son épouse, ou l'un ou l'autre de ses enfants.
À partir de Solon, il y a une barrière entre le maître et l'esclave-objet.
Zeus, notre père qui est aux cieux, pourquoi tu fais les jours si courts et les nuits si longues? Celle-ci n'en finit pas, pourtant le coq a chanté depuis longtemps, et mes esclaves ronflent toujours, écoutez-les. Ça ne serait pas passé comme ça avant-guerre. Tous les aurais secoués et expédiés au champ avant l'aube en vitesse. Mais aujourd'hui, je ne suis plus le maître chez moi.
Bon, la séparation entre le maître et l'objet esclave peut être cruelle. Les modalités pratiques peuvent permettre à l'esclave d'avoir une vie plus agréable qu'on l'imagine. Mais alors, les normes, hein. Si le maître tue son esclave, qu'est-ce qui se passe? Si l'esclave viole un homme ou une femme libre, qu'est-ce qui se passe?
Alors si le maître tue son esclave, on n'est pas très très bien renseigné, mais il ne se passe probablement rien de plus qu'un rituel de purification, parce qu'il y a eu meurtre, donc il y a souillure du point de vue religieux, et le maître doit se purifier et éventuellement purifier le lieu dans lequel le meurtre aurait eu lieu.
Et en revanche, s'il viole un libre ou une libre?
Alors si un esclave viole une libre, c'est toute la question du rapport entre le statut et les droits, c'est-à-dire que selon qu'on est libre ou esclave, le même crime n'est pas considéré comme une faute d'égale importance. Un viol par un homme libre d'un esclave est une faute, je dirais, très légère du point de vue du droit antique, alors que le crime inverse, donc un viol par un esclave d'un homme libre, est considéré comme une faute extrêmement lourde et très fortement pénalisée.
Vous observez les signes physiques. Alors, les animaux sont marqués au fer, mais le tatouage à l'encre, ça va être réservé aux esclaves?
Oui, on tatoue les esclaves notamment consécutivement à une fuite. On a trace de tatouages sur le front, et par exemple d'une phrase qui dit « Katekeme fego », littéralement « Arrêtez-moi, je m'enfuis », phrase qui pouvait être inscrite donc sous la forme d'un tatouage sur le front des esclaves fugitifs.
Tout à l'heure, je vous ferai parler d'un sport qui est la politique, mais vous êtes un spécialiste du sort du sport en Grèce. Un esclave peut être sportif?
A priori, non. Alors, on a quelques très très rares cas à la fin de l'Antiquité, sous le bas-empire romain, mais en règle générale, les esclaves n'ont pas le droit de se dénuder au gymnase pour y pratiquer le sport.
Le socle de la citoyenneté, c'est la présence de nombreux esclaves. Est-ce qu'on peut chiffrer leur proportion? Parce que vous tentez dans votre livre des tableaux sur le prix des esclaves, mais la proportion?
La proportion, elle est à peu près impossible à établir parce qu'on ne dispose pas d'archives qui permettent de construire des chiffres. On peut essayer de raisonner à l'échelle des oikoi, donc des foyers individuels, où on peut penser que pour celles des familles qui avaient des esclaves, et c'était pas la règle dans toutes les familles, pour celles des familles qui avaient suffisamment d'argent pour avoir des esclaves, on devait tourner quelque part entre 1 ou 2 et 5 ou 6 esclaves. Mais il y a des propriétés avec plusieurs dizaines d'esclaves.
Une fois ce socle massif constitué, on va pouvoir réfléchir à la citoyenneté. Et il aura fallu aussi distinguer les citoyens d'avec les étrangers. Et là, vous énumérez toute une cascade de statuts d'étrangers.
Absolument. Mais je n'ai pas compris votre question, excusez-moi.
Eh bien, la cascade de statuts, il faut qu'elle soit bien précipitée, bien organisée, bien nommée. Et une fois que la cité est fermée aux étrangers, on pourra parler des citoyens. Mais parlons des étrangers d'abord.
Alors oui, effectivement, il y a toute une série de statuts. Le premier critère, c'est celui de la résidence. Donc il y a une distinction très très forte qui est faite dans les cités entre les étrangers de passage, qui ne sont pas reconnus administrativement, ils n'ont pas d'existence officielle du point de vue de l'autorité publique, et puis les étrangers résidents. Et à l'intérieur de ces étrangers résidents, alors là, il y a une cascade de statuts en fonction des privilèges auxquels ils ont droit et des obligations auxquelles ils doivent se soumettre.
Les étrangers sont l'objet d'interdictions particulières et d'impôts propres?
Oui, c'est même un élément déterminant. Les citoyens se caractérisent par le fait qu'ils ne paient pas d'impôts sur leurs revenus de manière régulière, ni sur leur patrimoine de manière régulière, à la différence des étrangers qui, pour la plupart d'entre eux, ont des obligations fiscales propres.
Mais alors, de même qu'un esclave peut ronfler, on a entendu un extrait dénommé d'Aristophane, un étranger peut par exemple se spécialiser dans le commerce maritime et la dilatation maritime d'Athènes, c'est ça qui fait sa fortune. Un étranger peut avoir un rôle très important.
Absolument. Vous voulez dire du point de vue économique,
oui.
Il y a des étrangers qui ont une activité économique fondamentale qui d'ailleurs parfois peut aboutir sur une promotion statutaire. C'est-à-dire que le fait d'être très riche, d'avoir un commerce prospère, si vous en faites bénéficier la cité dans laquelle vous résidez, peut aboutir à des formes de d'octroi de privilèges.
Alors je pose des questions très naïves, modernes, hein, sur les étrangers, les esclaves. Autre question très moderne sur la cité grecque. Mais les femmes, alors vous n'allez pas être surpris d'entendre encore un extrait d'une pièce d'Aristophane, ici enregistrée avec Rosie Ivart, c'est peut-être la plus connue des pièces d'Aristophane, on se souvient de l'argument. Les femmes de cette pièce considèrent qu'elles pourraient peut-être mieux régir la cité, il y aurait moins de guerre, et davantage de prospérité si elles pouvaient entrer dans l'assemblée.
L'assemblée va bientôt s'ouvrir. Alors, il convient d'arriver les premières pour s'asseoir le plus loin possible des prytanées. Il ne faut pas, vous pensez bien, qu'on nous soupçonne d'être des femmes. Alors, mettez vos barbes.
Voilà la mienne, si elle est belle.
Et la mienne.
Et la mienne, mais très chère. Voyez comme elle est blonde et soyeuse et frisée. Par Aphrodite, j'en suis toute retournée.
Non, écoutez, femme. Chut, et ne perdons pas de temps. Qui prendra la parole à l'assemblée?
Moi.
Eh bien, toi, essaye, Xanthippe.
J'eusse aimé qu'une autre que moi, citoyen...
Une autre ? Mais malheureuse, tu nous trahis ! À la suivante.
Citoyen...
Mais qu'est-ce que tu fais, toi, Clinarité ?
Tu vois bien, je file.
Tu files ? Quand tu files à l'Assemblée ? Oh ! À la suivante.
J'aurais volontiers laissé la parole, citoyen, à des orateurs plus habiles que moi. Mais dans l'intérêt de la cité... Ô femme qui siégez ici.
Femme ! Oh non, tu les appelles femmes ! Par Zeus ! Oh, je vais parler moi-même.
Il y a des rôles bien tranchés. La femme à la maison, pas à l'assemblée. Le même Solon, 6e siècle, qui a creusé l'espace entre les esclaves et les citoyens libres, c'est lui qui va avoir cette judicieuse idée que vous développez de la création de la maison de passe.
Oui, en tout cas, on la lui prête. L'idée de cette législation, en tout cas la manière dont elle est décrite dans les sources antiques, c'est que les maisons de passe auraient permis de protéger les jeunes filles à marier. Pour dire les choses rapidement, les jeunes hommes se marient assez tard, vers la trentaine, alors que les jeunes filles se marient plutôt au terme de leur adolescence, entre 15 et 18 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les jeunes hommes ont une vie sexuelle, une carrière sexuelle, pour parler comme les sociologues, une carrière sexuelle qui est assez longue avant leur mariage. Et pour éviter qu'ils s'orientent vers les jeunes filles à marier, les textes nous disent que Solon aurait créé des maisons de passe à Athènes pour divertir littéralement la sexualité des jeunes hommes.
Et les femmes mariées ?
Les femmes mariées sont censées...
Elles sont là pour produire les citoyens.
Elles sont là pour produire des citoyens. Si elles sont mariées à des citoyens et qu'elles sont elles-mêmes issues d'une famille civique, ces femmes mariées, elles sont censées être les femmes d'un seul homme. Donc l'adultère est fortement condamné, enfin de manière très asymétrique, hein, c'est-à-dire que les femmes mariées sont condamnées dès lors qu'elles ont une relation extra-conjugale, alors que pour les hommes mariés, je dirais le compas sexuel est très ouvert, puisqu'ils peuvent s'unir sexuellement à n'importe quel partenaire sexuel, du moment qu'il ne s'agit pas de l'épouse d'un citoyen.
Mais l'adultère, c'est quand même quelque chose de très très important, parce que ça peut rompre le renouvellement du corps civique.
C'est ça, le problème principal posé par l'adultère, c'est que ça fait peser un doute sur l'ascendance de l'enfant à naître. Quand une femme couche avec un autre que son époux, elle fait peser une incertitude sur l'origine de l'héritier à naître, et donc à ce titre, c'est condamné par la loi, très durement.
On va parler maintenant de la carrière politique, de la norme du citoyen participant, c'est le mot que vous utilisez. Alors, le citoyen participant doit être issu d'une famille de citoyens. Les naturalisations, les affranchissements, c'est très rare, ou très lent.
Alors, il y a deux période de l'histoire en la matière principale, si on se situe autour de l'époque classique, il y a un avant, les années 450 avant Jésus-Christ, où la règle semble être d'être issue d'un parent citoyen ou descendant de citoyen, et puis ensuite s'impose au milieu de l'époque classique la règle de ce qu'on appelle la double ascendance civique, qui oblige les hommes à choisir des épouses issues d'une famille de citoyens pour pouvoir produire des héritiers légitimes.
Ça fait suffisamment de gens pour faire la guerre ?
Alors pas toujours, pas toujours. Il y a ce qu'on appelle le phénomène de l'oliganthropie, c'est-à-dire que parfois les pertes masculines à la guerre ne sont pas compensées par la natalité, et à ce moment-là, il faut trouver des solutions.
Grand moment de la Grèce classique, aussi Thémistocle, un des chefs de ce qu'on appelle peut-être le parti démocrate, et qui est un des protagonistes de la victoire de Salamine en 480 avant Jésus-Christ sur les Perses.
Athénaioi, politai sou sina makaistratiotais emin, aede parecheen, etoi mois aminae tei polekai tois, en aute stimois.
Il me revient de former ces jeunes hoplites à l'art militaire. Commencez par faire de la discipline la première des vertus. Si nous étions spartiates, nous serions tous déjà des militaires permanents, rompus au devoir d'obéissance collective depuis notre plus jeune âge. Nous nous entraînerions sans relâche, portés par une vision héroïque du destin, qui fait de la mort au combat la plus belle des morts. Mais les Athéniens sont différents. Suis-je suffisamment persuasif ? Je l'espère. De mes aptitudes au commandement dépend la grandeur de ma destinée. Je poursuis ce but même si je ne dispose que d'une poignée de citoyens soldats, bien éloignés d'une armée de métier. Mais comment ne pas respecter ces hommes qui veillent eux-mêmes à leurs conditions physiques et s'équipent à leurs frères ? L'important est qu'ils sachent prendre les armes quand le danger menace.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Petit salut à la réalisation de Jean Prat, les Perses, à la télévision en prime time, on ne disait pas encore ainsi, en 1961. Athènes, Athènes, Athènes. Alors, votre livre, Jean-Manuel Roubineau, porte sur les cités grecques. C'est aux presses universitaires de France. Sont-elles égales? Sont-elles inégales? On entendait Thémistocle dire, tiens, les citoyens, ils méritent quand même le respect parce qu'ils ont apporté leur contribution. Il y avait une participation, parlant égalité, inégalité, consistante des plus riches à la guerre.
Oui, sous deux formes. D'abord sous la forme d'impôts extraordinaires qui étaient prélevés à mesure des décisions de l'Assemblée. Donc quand l'Assemblée le jugeait nécessaire, elle pouvait voter le principe d'un prélèvement exceptionnel pour financer une expédition, par exemple. Ça, c'est la première forme par laquelle les riches finançaient la guerre. La deuxième forme, c'est ce qu'on appelle les liturgies, en tout cas les liturgies militaires, et notamment la triérarchie qui consiste à financer un navire de guerre ou entretenir pendant une année le fonctionnement d'un navire de guerre.
Donc évitons le mot impôt, parlons plutôt de liturgie. Nos auditeurs retiendront ça. Puis alors c'est très beau le mot trihiérarchie. Et l'hypotropie pour ceux qui ont des moyens peut-être plus limités, qu'est-ce que c'est ?
Alors l'hypotrophie c'est le fait pour un citoyen d'assurer l'entretien d'un cheval destiné à la cavalerie militaire.
Donc ça, c'est la participation à la guerre des plus riches ou des plus pauvres, des citoyens grecs. Vous voulez qu'on parle un peu d'histoire politique ? Je crois que c'est le domaine dont vous dites qu'on ne parle pas assez quand on fait de l'histoire grecque.
Alors, je crois que vous savez que je pense exactement le contraire. On en parle beaucoup trop, je dirais. On a tendance à utiliser l'histoire de l'Antiquité comme un réservoir à modèle politique. Et précisément, j'ai essayé de travailler à rééquilibrer cette utilisation ou cet usage de l'Antiquité.
Je vous ai dit que je vous forcerais un instant à descendre ma pente parce que c'est quand même très intéressant d'avoir des utopies disponibles comme ça, sous forme de réservoir. Il y en a qui nous disent maintenant... Alors, il y en a qui nous disent que ce n'est plus besoin de suffrage universel pour désigner les responsables politiques. Mais il y en a d'autres qui nous disent que le suffrage universel avec l'élection d'un représentant s'est dépassé. Si on en revenait au tirage au sort qui était pratiqué pour les fonctions politiques et pour les fonctions judiciaires à Athènes. L'organisation de la vie matérielle, parce que ça vous intéressait beaucoup par contre à la vie matérielle d'une élection... Athènes, il pouvait y avoir 70 kilomètres entre le point le plus éloigné de la ville et le lieu où on discutait.
Plusieurs dizaines de kilomètres.
Plusieurs dizaines de kilomètres. Et c'était organisé, ce monde, en plusieurs tribus. Et je ne me trompe pas, les tribus regroupaient, je vois votre assentiment, des dèmes.
993, 994.
Alors il faut un minimum, on dirait maintenant, un quorum pour qu'on puisse discuter sérieusement.
998, 999, 1000.
Tiens, Herpétès, n'es-tu pas bien jeune pour être ici ?
Mais j'ai déjà dépassé la trentaine. Et si les dieux le veulent...
Rêve noir.
Je peux être choisi comme membre de ce tribunal ou d'une autre assemblée. J'ai déjà prêté serment.
Ah, par les dieux.
Rêve noir.
On oublie comme le temps passe, vite. Je te croyais beaucoup plus jeune.
Antinakos, fève noire. Pitaco, fève blanche. Et Teston,
sais-tu pour quelle sorte de procès nous sommes jurés ?
Non. C'est comme à l'accoutumée, nous ne le saurons qu'en écoutant les témoins.
Fève noire.
Aujourd'hui, fève les dieux noir. Nous sont contraires. Tous sont exclus. S'il en est de même avec les autres dèmes, il sera difficile de constituer une assemblée de 501 juges.
Ne t'inquiète pas, la loi l'exige. Et à ma connaissance, on y fève est toujours noir. Parvenu. Nous devrons peut-être attendre aujourd'hui, plus que d'habitude.
Écrate.
Mais la chance tournera. Et l'assemblée sera constituée.
Fève blanche.
Il faudrait, pour discuter des origines, des modalités du fonctionnement du tirage au sort, des heures.
Probablement, oui. Hein. C'est une question assez technique.
Et voilà, Fustel de Coulanges disait qu'il y avait une origine religieuse. Là, je vous parle de l'histoire du 19e siècle. Non, il y a quelque chose qui va vous intéresser, là, dans ce qu'on entend. Rossellini, un film tardif qui s'appelle « Le procès de Socrate ». La question des âges, là, on est dans l'histoire sociale.
D'une certaine manière, enfin, si je comprends bien votre question, c'est la question de la capacité politique et à partir de quel âge est-ce que la capacité politique est ouverte ? C'est variable d'une cité à l'autre, hein. C'est très variable d'une cité à l'autre, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre de cités dans lesquelles il y a des conditions d'âge pour devenir magistrat qui sont supérieures aux conditions d'âge pour devenir simplement citoyen. C'est-à-dire que bien souvent on devient citoyen à 20 ans, mais il faut attendre d'avoir 30 ans ou 40 ou parfois 50 pour certaines magistratures pour pouvoir briguer la magistrature en question. Donc alors oui, il y a des conditions d'âge.
Ça ne va pas du tout avec notre idée du modèle grec, ça.
Ça ne va pas tout à fait avec l'idée que vous avez du modèle grec, oui.
On va rester dans le film de Rossellini. Alors, Socrate, vous allez l'entendre, a des difficultés avec son épouse. Il rentre à la maison un peu tard. Qu'est-ce que ça peut être, la maison de Socrate ? Il y a tout un chapitre dans vos cités grecques sur la maison.
Alors, on sait qu'il était propriétaire de sa maison et on sait qu'il avait des créances. Donc, ça veut dire qu'on a affaire à quelqu'un qui, a priori, n'appartenait pas à la frange la plus pauvre du corps civique. On sait par ailleurs qu'il était hoplite, ce qui confirme cela.
Hoplite.
Alors, hoplite, c'est-à-dire fantassin lourd, il participait à la phalange de sa cité avec un armement lourd et relativement coûteux qu'il devait financer, ce qui est un signe extérieur, je dirais, d'appartenance à la couche des citoyens, sinon les plus riches, en tout cas ceux dans la partie supérieure du corps civique.
C'est pas du tout le point de vue qu'a sa femme, qui, elle, a peur de la mobilité descendante.
Tu rentres à la maison pour qu'on te fasse la cuisine, ça t'est bien égal que tes fils meurent de faim pourvu que tu pérores les pieds dans la poussière. Ça fait 2 jours que je suis toute seule. 2 jours que nous n'avons presque rien à manger. Tu penses peut-être que nous mangeons tes paroles.
Écoute, gentille.
Tes discours, je les connais par cœur.
Et comment? Tu ne me laisses pas parler.
Tu ennuies tout le monde avec tes discours. Et au lieu de te moquer de la prétendue ignorance des gens, tu ferais mieux de te regarder. Mais regarde-toi, regardez-le, ce pouilleux. Maintenant qu'Athènes est vaincue, tu auras enfin un prétexte pour ne pas aller dans les assemblées gagner le pain de ta famille. Mais tu crois que nous pouvons vivre avec cette saleté, hein?
Gagner dans les assemblées le pain de sa famille. Là, on est dans l'histoire sociale, cher Jean-Manuel Roubineau. Gagner dans les assemblées son pain, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire être présent à l'assemblée à Athènes et recevoir au titre de cette présence une indemnité journalière qui permet pour, en tout cas une partie du corps civique, la partie probablement la plus pauvre, d'assurer sa subsistance pour autant qu'on soit en mesure de se rendre à l'Assemblée, ce qui implique d'être citadin.
Donc, l'accès à la liberté de parler, ou par le tirage au sort, à des fonctions civiles ou militaires, l'égale distance par rapport à la fonction de pouvoir, était garantie dans les cités grecques, et vous expliquez que les inégalités ne cessent de s'y creuser, qu'il y a des effets cumulatifs d'enrichissement.
Alors, il y a une égalité de principe. La question, c'est de savoir si on a les compétences pour pouvoir en tirer le bénéfice. Tous ceux qui n'ont pas reçu une éducation, par exemple, aux lettres, ne sont pas en mesure de prendre la parole à l'Assemblée pour convaincre leurs concitoyens de voter telle ou telle proposition de décret ou de loi. Ça veut dire que cette égalité dans l'accès au pouvoir, elle est quand même très très étroitement conditionnée ou limitée par l'accès à l'éducation, qui est extrêmement différenciée.
Oui, mais moi je croyais que c'était plus tard, quand Platon, par exemple, fait la critique de la cité grecque, que cette question des compétences avait pris une telle place.
Dès le 5e siècle, le pouvoir politique est capté par ce qu'on appelle les rhetores kai strategoi, donc les orateurs et stratèges, qui sont les individus qui prennent la parole à l'Assemblée pour peser sur le vote de leurs concitoyens. Ces individus sont toujours des individus qui ont bénéficié d'une éducation au long cours, une éducation primaire, secondaire, supérieure, à la philosophie, à la rhétorique, et qui peuvent, parce qu'ils ont ce savoir-faire, prendre la parole et emporter un vote.
Aristote avait une solution différente qu'on pourrait soumettre à Emmanuel Macron. On ferait un groupe des riches, un groupe des pauvres. Alors le groupe des pauvres est beaucoup plus nombreux. Alors les décisions seraient prises à égalité par le groupe des pauvres qui serait réduit à la moitié, le groupe des riches qui serait élargi à la moitié. Ce serait peut-être une forme de démocratie. Les cités grecques, cités inégales, c'est aux presses universitaires de France. Merci à vous, Jean-Manuel Roubineau. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, avec à la technique Mathias Alléon, et toute la cohorte de la marche de l'histoire, Franck Olivard, Frédéric Martin, Ilinka Negulesco et Céline Loriou.
Merci.